Allez, on est de retour dans la libre antenne Special Love, All We Need Is Love. C'était un bon moment avec notre invité.
Oui, très agréable.
Très agréable.
Très sympa. Très sympa. Très
sympa. Allez-y, couplé au point car il y a beaucoup de professionnels aussi à découvrir ou à redécouvrir. Cabinet Exprime est présent, notamment sur la plateforme. Elle était venue nous voir il y a quelques semaines de cela.
Sophie Sébastien
qui nous parlait du couple et notamment des couples qui sont séparés à cause d'un métier, par exemple, d'une expatriation. Voilà, et c'est pas évident quand vous êtes 6 mois sans voir votre compagne. On est un petit peu tranquille, mais après
un petit moment après.
On est un petit peu tendu aussi sûrement.
On est tendu.
Eh oui, mais heureusement.
Tendu.
Mais... On a le téléphone, on a WhatsApp, voilà, on a TikTok, on a Instagram, on a tout, quoi.
D'ailleurs, c'est cet invité qui nous avait parlé du petit WhatsApp de couple. Yeah.
Et du coup, Yann, ça donne quoi?
On va dire, je l'ai mis en place. J'ai encore pas trop testé, mais ça va arriver.
D'accord. Mais en même temps, vous êtes pas séparés. Alors que le système, il valait surtout pour ceux qui étaient amenés à se séparer un certain temps.
Ah, ou pour pas entretenir. C'est pour entretenir le couple durable, il faut l'entretenir. Et c'est comme un jardin, si on le bêche pas, ça marche pas.
Hein.
Ah,
moi, je l'ai testé, donc j'ai créé un petit groupe WhatsApp aussi avec ma compagne.
Sérieux?
Et il y a que des paires de chaussures, que des petites vestes et tout. Je fais, mais attends.
C'est bien. Moi, au moins, ça donne des idées de cadeaux.
Ouais, puis moi, j'ai mis des places pour PSG. Tu vois, j'ai mis des places pour des rencontres de foot.
Par c'est exemple. Hyper cher les places pour PSG. J'ai regardé l'autre fois.
C'est pour ça que j'ai mis ça.
Hors de prix, hein. Non, mais les places PSG pour aller au Parc des Princes, là, c'est incroyable.
Il y a un PSG Sociedad là d'ailleurs qui arrive en Coupe d'Europe.
Le PSG a très envie de changer de stade là.
Ils pourront pas. Ça a été décidé.
Ils pourront pas au Stade de France. Donc, déjà, le Stade de France ne sera pas à eux. Voilà, tout simplement. C'est
clôturé, ça, oui.
Process d'extension du parc des Princes.
Moi, je préfère aller au stade d'à côté. Mais
voilà. Donc déjà, n'hésitez pas à mettre en ligne ce petit outil qui peut être pas mal. Donc,
encore faut-il avoir un chéri, hein.
Voilà. Ah bah oui. Mais même là, tu peux
donc
faire.
Tu mets tous les prétendants sur.
Ouais, voilà. C'est peut-être pas mal aussi. Tu mets tes 10 prétendants.
Ah bah oui. Et alors, comme ça, tu peux toujours avoir.
Et tu vas faire un carton, tu vas avoir X paires de chaussures, 3-4 vestes, des places pour un concert.
Je crois pas, à mon avis, j'aurais rien du tout.
C'est elle qui va se les faire, in fine.
Ah bon. C'est moi qui vais me faire mes propres cadeaux.
Mais tu sais que c'est pas idiot.
T'es célibataire, tu te mets 10 nanas potentiellement.
Ou 10 mecs si t'es une nana. Enfin,
oui, enfin bon, en ce qui nous concerne. Voilà. Enfin, ça dépend. On va mettre des mecs aussi.
Ça dépend de la sexualité aussi.
Mais bon, tes petites attentions comme ça sur un groupe WhatsApp, c'était une très très bonne idée.
Oui, exactement.
Et je crois savoir d'ailleurs que devant toi, Julien, tu as le petit jeu aussi. 2 minutes pour convaincre.
Exact.
Spécial love, spécial amour, spécial amoureux. Voilà, ça c'est le cadeau de la Saint-Valentin. Si vous avez quelque chose à offrir. Ça vous coûtera pas
trop
cher
bien.
En plus.
Mais non, c'est pas cher et c'est trop
et
bien.
Ça vous fait passer quelques temps c'est avec votre bien. Compagne bah, plutôt que de jouer à la bataille. Bah.
Et je me souviens que Raphaël, commençait toutes ses réunions, nous avait-elle dit avec en tirant une carte, on devrait peut-être faire pareil.
Bah, écoute, on va tirer une carte à la fin de l'émission, après le journal des bonnes nouvelles qui va arriver dans quelques instants. J'espère que vous avez toutes et tous des bonnes nouvelles.
Bien sûr,
vous avez bien préparé cette émission.
Qu'est-ce que tu crois?
Ouais, il suffit pas d'arriver au micro.
Les mains dans les poches.
Et
on boit du coca.
On mange des Haribo, des petits bonbons. On reçoit des professionnels du couple. Parce que là, on va être des spécialistes et ce couple. Moi, je vous dis, le couple va être tendance. Voilà, on va rendre le couple tendance. C'était pas gagné.
Si hype.
Si mes grands-parents m'écoutent, eh oui, papy et mamie. Hein. Voilà, nous aussi, on y retourne. 50
on
ans,
l'a fait.
On signe pour 50 ans. Voilà. C'est pas évident, papy et mamie. Bah, maintenant, je comprends mieux.
Et encore, ils n'avaient pas tous ces outils-là. Hein. Ils arrivaient à se démerder quand
même. Il
n'y avait
pas WhatsApp à l'époque. Hein.
Oui, il y avait le confessionnel.
Il y avait
le confessionnel. Confessionnel, un père Henri confessionnel. C'était un moyen de se confesser.
Yvette
a été méchante avec moi.
Un accompagnement.
Eh oui, c'était les prêtres, après c'était les
soins. Il y a encore heureusement des prêtres, et puis encore aussi des personnes qui sont disponibles à la fois chez les thérapeutes qui sont recensés, mais aussi chez des personnes, je dirais, qui sont dans l'Église catholique, par exemple, et qui accompagnent des couples en difficulté aussi.
Ça existe. Oui,
et ça, je peux citer un certain nombre de parcours de couple, ça s'appelle parcours duo, parcours alpha, qui aide justement les couples à se retrouver, à se découvrir, à identifier, je dirais, leur trésor. Chacun a des trésors. Encore faut-il les révéler.
Et c'est ça. Oh, c'est beau.
C'est magnifique.
Chacun d'entre nous a des trésors. Encore faut-il
Donc,
les révéler.
Tu révèles les trésors de ta compagne, okay. Et ta compagne révèle tes trésors.
D'accord.
Putain, préparer la pêche, la pelle, les pioches, les pêches.
J'ai eu le malheur de lui laisser ma carte bancaire lundi dernier.
Non, mais toi, t'es le roi des cons, en fait.
D'ailleurs, j'ai dû changer de carte.
Ah,
ah, j'ai fait une opposition.
Tu déconnes.
Bah, si, moi, je suis sans pitié.
Arrête.
Je préfère survivre pendant 2-3 jours
que
de laisser ma carte à ma compagne. C'est vrai,
bah oui, mais tu l'as fait.
Oui, mais je l'ai fait. Bah oui, je l'ai fait. Bah, je me suis arrêté au moment.
À un moment, t'es blessé.
On l'embrasse. On l'embrasse d'ailleurs, ta compagne.
Hein, je vous le dis tout de suite.
Sérieux?
J'ai juste ma carte qui est restée.
Ah non, mais là, Fred, tout de suite, j'ai coupé Léo. Tout de suite, j'ai coupé Léo.
Mais le papa, il a pas de cul maintenant. Il a découvert.
Il a besoin d'un accompagnement.
Mais oui, mais il peut plus, il a plus d'argent.
Mettre en carte en opposition, c'est un bel accompagnement.
Il a pris la décision tout seul, sans coupé Léo.
Oh putain, mais. Dès le lendemain, je suis mort.
Je suis mort de.
C'est pour le bien-être du couple. C'est...
Oui, voilà. Bien sûr, c'est surtout pour le bien-être de ton compte. Bah,
je peux te dire que j'avais de la viande et des fruits et des légumes et j'avais des chaussures aussi, mais à talons, donc c'était pas mal.
Ah tiens, c'est bizarre.
Et le prétexte, c'était quand même pour m'acheter des chaussettes. Hein. Là, c'est cher. In fine, j'ai pas les chaussettes.
Mais par contre, elle a sa paire de talons. Elle pourra te les prêter, peut-être.
Non, même pas.
Ah, c'est énorme.
Donc, voilà.
Ah, non,
vous savez
énorme.
Ce qu'il faut faire aussi dans ces cas-là. Voilà. Faut se montrer un peu dur.
Comme ça, t'es ruiné, mon gars.
Et avant d'être ruiné, mettez votre carte en opposition.
Oh la vache, le délire.
Impressionnant. Enfin bon, voilà, donc l'argent peut être aussi source de soucis aussi.
Tu m'étonnes. Oui.
Voilà, journal aussi. Des bonnes nouvelles dans quelques instants.
Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
Eh, Marge. Je veux un donut. Dynamique Radio.
Tu voulais pas une petite
d'œuf. Salut, je bois de l'eau de la pluie. Dynamique Radio, n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle du private joke, chers auditeurs.
Ça,
vous n'y comprenez rien, mais c'est pas bien.
Bien.
D'ailleurs, on devrait tout vous dire. Voilà. On est vachement dépensiers sur Dynamique Radio.
Exactement.
Si vous saviez ce qu'on a pris à nos parents. Je me retourne vers toi, Yann.
Ouais, moi, je suis une noix blanche, les gars. Je tenais à ma vie.
Voilà, l'éducation. Hein.
Ah ouais.
Quoi, l'éducation.
Ah,
être permissif ou pas, telle est la question.
Ah ouais.
Père Henri.
Tout va bien.
Tout va bien. Sujet sérieux à venir hein, dans la libre antenne aussi. On va parler des relations.
On est dans un monde sérieux.
Entre notre cher pays, notre chère nation, la France, et ce cher pays qui est la Russie, pays ancestral.
Yes.
On en saura un peu plus tout à l'heure. Journal des bonnes nouvelles. Allez, honneur aux filles. Avec peut-être une bonne nouvelle du côté de Chris.
Eh bien, écoute, oui, je te confirme cette bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez dans vos placards des couvertures, des duvets, des vêtements chauds dont vous ne savez pas quoi faire, eh bien, j'ai une très bonne idée d'utilisation. C'est que Emmaüs Défi lance un grand appel pour reconstituer ses stocks. Et je vais vous confier à l'antenne tous les endroits où vous allez pouvoir les déposer. Il y en a 10 dans Paris, excusez-moi pour les auditeurs qui n'habitent pas Paris, mais là c'est cet appel concernait la région parisienne. Donc vous allez pouvoir les déposer
dans les boutiques.
Dans les boutiques.
D'Emmaüs.
D'Emmaüs. Alors Emmaüs Coup de Main, 31 avenue Édouard Vaillant à Pantin.
À Pantin.
Chez Emmaüs Défi, 6 rue Archereau dans le 19e.
Dans le 19e.
Chez Emmaüs Défi encore, au centre commercial Westfield, Forum des Halles dans le 1er.
Oui, il y a une boutique Emmaüs dans le Forum des Halles.
Exactement. Au Crédit Municipal de Paris, 55 rue des Francs-Bourgeois dans le 4e.
Voilà.
Chez Emmaüs Défi, 13 rue Saint-Œil dans le 13e.
Et oui.
Chez Emmaüs Coup de Main, 70 rue Saint-Blaise dans le 20e.
Et oui.
Emmaüs Coup de Main encore, 161 avenue Gallieni à Bagnolet.
à Bagnolet.
Emmaüs coup de main encore, place de la Porte de Montreuil dans le 20e.
Dans le 20e encore.
Chez Emmaüs défi, toujours, 46 allée de Paris-Ivry, 75-013 Paris, excusez-moi, Jean Bégay.
Dans le 13e, à côté de chez nous. Donc toutes les vieilles couvertures, hein, Chris.
Vieilles
ou pas vieilles.
Voilà, tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce, si vous avez décidé d'alléger vos placards et de changer vos couettes, etc. Ah. Pensez à Emmaüs Défi qui est en recherche de vêtements chauds, de couvertures et de duvets pour toutes les personnes qui les accueillent.
Très bien. OK, Emmaüs d'ailleurs qui a une boutique dans les Halles, je suis passé cette semaine devant la boutique, très moderne hein. Ah ouais, là je me suis dit mais
ils ont un bel emplacement
au centre commercial, ouais. Donc même pour acheter des choses, il y a des trucs défiant toute concurrence, hein, des prix défiant toute concurrence. Je suis allé chez Emmaüs, il fut un temps, j'achetais des CD moi.
Ouais. Mais c'est un super système, les gens connaissent pas assez l'intérêt qu'il pourrait y avoir à aller chez Emmaüs. Il y a des pépites chez Emmaüs, vraiment il y a des pépites.
Et le personnel est employé, c'est souvent des personnes qui sont de la rue ou des choses comme ça.
Bien sûr, parce que le principe d'Emmaüs, c'est de favoriser la réinsertion sociale des compagnons d'Emmaüs, puisque ça s'appelle comme ça.
C'est ça.
Et donc à chaque fois que vous allez déposer, que vous achetez quelque chose chez Emmaüs, vous faites une bonne action.
Une très très belle action. On enchaîne avec un journal des bonnes nouvelles, une annonce de bonnes nouvelles avec Zaza.
Oui, alors moi ça n'a strictement rien à voir. Je ne suis absolument pas dans l'humanitaire. C'est Pierre, ma JBN de la journée ou de la semaine.
Oui, Pierre.
Pierre Garnier, le vainqueur de la Starac.
Eh oui, d'ailleurs on écoutera son titre, c'est à venir sur Dynamique Radio.
Alors, figurez-vous qu'il a 1 million... Il vient d'atteindre le 1 million de followers sur Insta hier à 21h. 1 million de followers. Alors qu'il est rentré à la Starac, il avait 712 followers. 4 jours après la sortie de la Starac, il a 1 million de followers. Il a aussi pété tous les records. Il est à plus de 2 millions de streams sur, si on compte toutes les plateformes, moi aussi j'en bégaye, en 24 heures. Plus de 2 millions de streams et 1,5 million d'écoutes sur YouTube.
Alors, incroyable. La question, c'est pourquoi ?
Parce qu'il a gagné la Starac, qu'il a sorti un titre et que ça cartonne. Voilà pourquoi.
Comparé à la gagnante, c'est le jour et la nuit. Là. Ouais,
ouais. C'est hallucinant.
Alors, quand on pense en plus qu'il vient d'un tout petit bled là, de 3000 habitants où il y a plus de vaches que d'habitants peut-être et quelques cloches qui sont fabriquées, là vraiment c'est...
Il est de quel bled, Julien?
Ville-Dieu-les-Poils-Rouffigny.
Ville-Dieu-les-Poils.
Oh là là.
Ça s'appelle maintenant Ville-Dieu-les-Poils-Rouffigny puisque ça Ville-Dieu-les-Poils a fusionné avec une petite commune qui
s'appelle fabrique des poils.
Comme quoi on peut être une star et venir de Ville-Dieu-les-Poils.
On fabrique aussi des cloches. Il y a d'ailleurs une énorme cloche devant la mairie. Je vous invite à aller visiter, hein. Pas que pour essayer de voir Pierre Garnier, évidemment.
Non, parce qu'à mon avis, pour l'instant, vu comment il enchaîne interview sur interview sur télé, je pense qu'il n'est pas encore à Ville-Dieu-les-Poils. Je pense qu'il est encore sur Paris.
Je connais bien cette petite ville, hein, puisque c'est pas très loin d'où je suis originaire. J'y ai des amis, d'ailleurs. Et effectivement, c'est mignon. Hein. Je vous invite à aller voir, passer devant la mairie. Vous allez voir l'énorme cloche. Et puis vous avez la fonderie Corniavar hein, qui fabrique les cloches. Vous avez plein d'autres artisans comme ça qui.
Très bien, c'était, il me semble, votre bonne nouvelle également.
Oui,
effectivement,
c'était aussi ma bonne nouvelle. Mais ma bonne nouvelle, ça peut être aussi que dans quelques instants, on va l'écouter sur Dynamique Radio.
Oui, voilà, tout à fait. C'est un titre qu'on vous laisse découvrir.
Well done, very, very well done, Pierre, quoi. C'est incroyable, voilà. Un succès pareil. Maintenant, bon, les mauvaises langues diront oui, mais ça ne va être qu'un feu de paille.
On verra.
En tout cas, pour l'instant, il cartonne.
Exactement.
J'espère pour lui que ça durera. Voilà.
On enchaîne avec une bonne nouvelle du côté de.
Ah oui, moi j'ai une très bonne nouvelle qui a réjoui mon cœur parce que j'aime beaucoup les enfants, j'aime les bébés. Et le 7 octobre, on avait annoncé qu'il y avait effectivement 40 bébés qui avaient été assassinés au début du conflit. Et c'était annoncé effectivement dans le kibboutz de Kfar Aza. Et c'était sur la base d'un reportage qui avait été fait par un journaliste de la chaîne israélienne I24. Et en fait, le gouvernement israélien a confirmé qu'il n'y avait pas eu de bébés assassinés, que c'était une fake news.
Bon, bah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, comme quoi il n'y a pas de bébés assassinés.
C'est officiel aujourd'hui. Voilà.
Mm-hmm. Très bien, on enchaîne avec Yann.
Alors, moi, est-ce que vous connaissez le moteur de recherche Ecosia?
Non.
De non, pas du tout.
Voilà. Bah, c'est un moteur de recherche français. Et en fait, dès que vous allez rechercher quelque chose dessus, eh ben, on plante un arbre. Et là, ils ont planté leur 200e million d'arbres.
Ah, wow. C'est génial.
Voilà. Bravo. Ecosia. Bravo. C'est un substitut à Google. Et en plus, c'est français et éco-responsable.
Éco-responsable génial. Français, mais c'est formidable.
Ouais.
Ça.
C'est formidable. On n'en parle pas suffisamment des bonnes initiatives. Comme
et
ça.
Les bonnes initiatives, c'est très tendance aussi parce que dans Qui veut être mon associé, là, sur M6, l'émission autour de l'entrepreneuriat, hier, il y avait aussi vachement de projets liés à l'écologie. Alors, il y a la tendance de la poubelle, la fameuse poubelle, qui nous permet de mettre nos épluchures, hein, c'est ça, parce qu'il y a une loi qui est passée comme quoi on devait être collecté.
On devrait avoir un compost.
Voilà,
un
compost à domicile.
D'avoir un compost dans Paris, quoi.
Ouais, c'est vachement pas sûr.
C'est encore une super bonne idée, ça.
Justement, je sais pas si tu as vu dans les.
Je rêve d'avoir des lombrics sur mon balcon.
Mais pour attirer les souris, hein.
Je sais pas si tu as vu la petite poubelle.
Et pour attirer les souris, c'est ça le problème.
Je sais pas si tu as vu la petite poubelle, qui était lancée justement à ce
sujet. Alors, figure-toi que j'étais en ligne avec un animateur, donc j'ai complètement raté toute l'émission.
Ben voilà, il y a la petite poubelle pour la modique somme de 69 €. Vous avez une petite poubelle, mais géniale, que tout le monde peut avoir chez soi et qui nous permet de justement de récolter aussi toutes ces épluchures.
Ouais, mais après, qu'est-ce que t'en fais?
Ben après, tu jettes ça dans un compost qui doit se trouver pas loin de chez toi.
Pas du tout. Moi, je crois que j'en ai pas.
Et il y avait une autre initiative aussi, et ça concernait aussi la plantation d'arbres. C'est une belle initiative autour de produits financiers. C'était un peu compliqué également. Mais en plantant des arbres, on pouvait aussi gagner de l'argent. Voilà, en finançant la plantation d'arbres dans le monde entier, on pouvait aussi mettre en place des produits financiers sur lesquels investir avec un taux de rendement supérieur à ce qu'on peut avoir sur les livrets, notamment les livrets A ou les choses comme ça. Et donc là aussi, il y a de belles initiatives, même dans le domaine de la finance, figurez-vous. Et puis c'est très concret, puisque l'agriculteur laisse, met à disposition son emplacement, donc ses terres. Sur ces terres, non seulement lui, il est payé, on sait la difficulté qu'ont aujourd'hui les agriculteurs à avoir des revenus suffisants pour vivre et pour nous nourrir. Donc il y avait ce côté qui était quand même pratique. L'argent retourne à l'agriculteur, puisque je crois que l'hectare gagnait 5 000 € par hectare, ce qui n'est pas négligeable quand même. La plantation d'arbres, voilà, hein, y a beaucoup d'arbres qui sont détruits suite à notre mode de consommation. Voilà, on replante des arbres sur des parcelles où il n'y en avait pas. Et en plus, en replantant des arbres, on gagne de l'argent parce que finalement, ces arbres-là, ensuite, servent aussi à une industrie autour de l'artisanat et une industrie de type un peu plus économique. Donc, il y a un process, l'agriculteur est gagnant. L'investisseur est gagnant, il y a des arbres sur notre planète, on contribue à leur reforestation, et ensuite on peut bénéficier d'une table ou de terrasse ou de meubles grâce à tout cela. Donc c'est vraiment une économie vertueuse, parce que tout le monde est gagnant en fait. Et donc ça, c'était, il y avait de beaux projets sur cette émission-là.
Il y en a de plus en plus de start-up, majoritairement de start-up ou de projets comme ça qui sont vraiment... de plus en plus dans la fibre écolo, je trouve.
Ouais, et pour la petite histoire, donc sur la poubelle, c'est Tony Parker, donc le grand basketteur français, le plus grand basketteur français de tous les temps, avant l'arrivée de Wemby, du coup, qui a investi quand même 100 000 €.
Pas mal.
Plus un autre qui a investi également 100 000 € sur un projet, donc 200 000 € pour une entrée en capital, bah, c'est plutôt pas mal. Et sur le projet aussi de déforestation, ils sont intervenus à hauteur de 100 ou 200 000 euros. Donc en fait, c'est des projets aussi qui attirent les investisseurs. Et donc ça, c'est bien pour la planète.
Mais ouais, mais parce que c'est dans l'air du temps aussi, quoi. Donc.
Et dernier projet aussi, d'ailleurs, en parlant de ça, il y avait un troisième projet. Ça, c'était tout ce qui était mégots de cigarettes, parce qu'on s'en rend pas compte, mais on les met partout, et c'est quand même quelque chose d'incroyable.
Ultra polluant.
Et avec le vent et les pluies, bah ça va dans les égouts, et malheureusement les égouts, bah vous le savez, hein, c'est retraité, ça part dans la mer, et il y a pas de fil. C'est pour ça qu'on retrouve le plastique, les mégots. Et dans les océans, c'est aussi parce que notre consommation dans les villes fait qu'à un moment donné, bah, ça se retrouve obligatoirement à la mer. Donc, il y avait des outils de filtration qu'on met maintenant sur les bouches d'égout
qui nous permettent
de récupérer le plastique, les mégots et tout ça. Et ensuite, en plus, c'est utile parce que ça resserre justement à refabriquer d'autres produits grâce à tout ça. Donc, voilà, il y avait de belles initiatives hier soir. Eh ben merci, parce que j'ai pu rebondir finalement sur ce que tu nous disais. On va faire une pause musicale.
Oui,
on
alors
découvre cet artiste.
Juste avant, on va revenir donc sur Villedieu-les-Poêles. Est-ce que vous savez comment s'appellent les habitants de Villedieu-les-Poêles?
Les poilons.
Les poilus.
Non.
Les poilons.
Les poilets.
Les duvets.
Je
les
poilus. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la société Corniavar qui fait quoi?
Des cloches.
Des cloches. Des cloches. Et donc avec les cloches, ils deviennent...
Des clochiers.
Ils deviennent quoi avec le bruit des cloches?
Sourds.
Donc on les appelle les...
Sourdingues.
Les sourdins. Non. Les théopolitains également. Il y a deux noms. Les sourdins ou les théopolitains.
Et puis, chers auditeurs, vous ne l'entendez pas. Mais il est avec nous, il est pas loin. Et puis il a une bonne nouvelle aussi. Alors quelle est-il, la bonne nouvelle?
Ah oui, c'est
le micro. Oui, bonjour.
Bonjour tout le monde, vous allez bien?
C'est maintenant que tu travailles, toi.
Vous vous appelez?
Tu sais,
comment tu t'appelles?
Je suis de côté, moi je sers que pour faire le ménage et tout. Alors, chers auditeurs, votez pour moi, merci.
Non. Bon, et sinon, ta bonne nouvelle,
oui, il peut se marrer, le patron. La bonne nouvelle, c'est que quand vous roulez en voiture et que vous faites un excès de vitesse de au moins plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, bah, bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de vous faire sauter le permis de conduire.
Non.
Je m'explique. Oui, ça c'est génial.
C'est vachement bonne nouvelle, oui, non, pour la sécurité routière, c'est vachement intelligent ton truc.
Oui, oui, bon, écoute, il n'y a pas d'accident en Allemagne, il n'y a pas d'excès de vitesse.
C'est politiquement correct, justement.
Donc on a un mec qui roule qui a été flashé à 275 km/h par radar. Par le radar automatique qui est fixé sur la voie express. Et figure-toi qu'il a eu la bonne idée d'appeler un avocat. Dieu merci, il y a des bons avocats encore de nos jours. Et cet avocat, il a demandé la notice de fabrication du radar. Voilà. Et qu'est-ce qui est mis dans la notice du radar, de la façon dont il marche et tout ça? Eh bien, c'est mis que le radar ne peut pas flasher au-dessus de 250 km/h. Voilà. Donc, monsieur le juge, vous comprendrez bien que si un radar ne flashe pas au-dessus de 250 km/h, vous comprendrez bien que votre
donc, il faut rouler à plus de 250.
Il faut rouler à plus de 250.
Finalement, c'est intéressant.
C'est très intelligent.
Et ben, procédure, ben voilà, il a gain de cause, le monsieur. Son permis n'a pas été enlevé. Ah. Il a récupéré ses points. Tout ça, tout va très bien, madame la marquise.
Eh ben, merci pour cette information. Voilà, c'est une bonne nouvelle. On peut rouler.
Excellente nouvelle. Excellente.
Il faut
255.
Voilà, faut quand même regarder toutes les notices des radars sur votre route avant de rouler vite. Hein.
Bah, j'espère qu'ils vont les changer, les notices.
C'est ça, je crois que
vous fassiez tous
à un moment donné.
Mais
voilà, comme quoi, en tous les cas, si on est procédurier, on arrive souvent
à un point. On peut rouler à 250, à 300, sans créer d'accident.
Ah oui, aussi.
En Allemagne, c'est limité, il y a moins d'accidents que chez nous.
Mais les routes ne sont pas les mêmes non plus.
Oui, ça dépend.
Les départementales.
Les autoroutes, vous avez les routes toutes droites dans les Landes. Facile.
Enfin, n'incitons pas nos auditeurs à rouler plus vite que les limitations de vitesse, s'il vous plaît.
Ah, mais il y a un risque, c'est clair. Il y a un risque, mais.
Sur circuit.
Il faut arrêter les conneries quand même.
Allez sur circuit,
évidemment. Prudent,
sur circuit, c'est possible.
Oui, non, mais bien sûr, allez sur circuit, il n'y a pas de souci. Voilà, éclatez-vous sur les circuits.
Généralement,
mais,
il y a quelques années, je me suis fait plaisir.
Respectez les limitations.
Ah, attends, alors la confession. Confession, il y a quelques années, je me suis fait plaisir, j'ai roulé à 280 km/h.
315.
Ouais, mais sur circuit.
Castellet.
Bah voilà.
Ah oui, sur le casting.
Voilà, un homme intelligent.
Sinon, on avait annoncé un artiste.
Avec quelle voiture?
En Formule 3.
Formule 3. Ah bah oui, bah c'est logique. Voilà, c'est un pilote, hein, vous l'aurez compris. Voilà. Et pas qu'un pilote d'avion.
J'ai déjà roulé à plus de 100 km/h dans Paris.
Voilà. Mais il est
j'espère que t'avais le gyrophare.
Et oui, il y avait le gyrophare bleu.
Voilà.
La sirène,
ah oui, mais t'étais encadré là.
Je suis par une bagnole qui venait sur ma gauche, figure-toi.
Voilà, il a failli casser la voiture de notre gendarmerie, du gouvernement. Allez, Dynamique Radio, on s'écoute. Bah, le gagnant de la Nouvelle Star.
Voilà, le sourdin.
Le sourdin.
C'est pas la Nouvelle Star, c'est
la
Star Academy.
Je suis fatigué. Je suis complètement.
Le gagnant de la Starac, Pierre Garnier.
Voilà, Pierre Garnier. C'est un joli nom, un joli prénom.
Merci, Zaza.
Voilà, on va pleurer encore.
Je sais ce que tu vas dire. Que c'est pas à cause de moi. Mais t'es prêt à partir. Et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir. J'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, mais celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné, pas donné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Ce regard, peut-être pour la dernière fois, et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné.
Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
Dynamique Radio, c'est la radio pour tous. On est toutes et tous en direct ce soir, c'est jeudi. Demain, on sera aussi en direct hein, de 20h
à 21h.
Avec
une nouvelle invitée.
Et oui, peut-être que Chris va nous en dire un mot.
Oui, eh bien, on va on va accueillir Marie Vautrin.
Marie Vautrin.
On va accueillir Marie Vautrin de chez Imago France.
Voilà, Imago France dès demain par téléphone entre 20h et 21h, suivi d'une playlist Love, bien entendu, avant aussi cette date fatidique du 14 février. Et oui.
Aïe 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 aïe.
Le 14 février, au moins. Moi, carte est opposée, je peux rien acheter.
Ta carte est opposée, ça dure pas des lustres, une
carte.
Ah bah
le temps qu'elle arrive.
Ah oui. Oh ben ça fait même pas 8 jours, t'exagères là.
Bah 8 jours, bah regarde.
On est bon.
Elle va arriver le 14 février.
Voilà. On est bon.
Encore faut-il que j'aille à la poste.
Pile-poil, c'est tout bon.
Encore faut-il que j'ai les clés de la... La boîte aux lettres. Bah, j'aurais peut-être perdu les clés de la boîte aux lettres.
Non, tu exagères, Philippe, tu es une mauvaise foi.
Qui sait?
Tu es une mauvaise foi.
Et oui, la Saint-Valentin.
Tu sais, la carte, elle peut être volée dans la boîte à
lettres. Père Henri, est-ce que tu l'as, cette Saint-Valentin, tu essayais de faire quelque chose d'un peu spécial?
Bah, écoute, cette Saint-Valentin, tombe un jour assez particulier, cette année. Est-ce que tu le sais?
Un mercredi.
Est-ce que tu le sais?
Un mercredi et comme tous les ans, le 14 février.
Eh bien non.
Voilà.
C'est pas le 14 février, c'est un mercredi, mais tous les ans, c'est pas le mercredi décembre. Et cette année, c'est le mercredi décembre, c'est-à-dire le premier jour de la joie d'aller vers la résurrection, vers le carême, donc c'est le temps du carême. C'est un temps de prière, un temps de jeûne, mais aussi un temps de, où on se tourne vers les autres pour mieux aimer, pour pardonner aussi, hein, qu'il y ait un peu des petits pardons qui soient faits un peu plus, quoi. Voilà. Être un peu plus vigilant sur les autres. Et donc, le jour de la Saint-Valentin, eh bien, encore plus, être attentif à l'autre pour mieux l'aimer.
Et ben, sinon, il y a un match du PSG aussi.
Oh, tous les 14 février, il y a un match du PSG.
Voilà, sinon, il y a un match du PSG.
Moi, je vais me contenter de rester chez moi le 14 février. Mais alors, c'est très... Match du PSG.
Bah oui, le carême, un bol de riz.
Non, mais quand je dirais... Mais
le carême, c'est fait pour mieux s'aimer.
La Saint-Valentin, le carême et le PSG.
Le carême, c'est fait pour mieux s'aimer.
Ou alors, je vais aller me faire un resto tout seul, comme ça, j'échappe au match du PSG.
Mon choix est tout fait.
Le PNG, bien sûr.
Tu peux faire, tu peux faire les deux.
Et un bol de riz le lendemain.
Tu peux faire les trois. Hein.
Voilà. Bon, les vrais amoureux, là, puisqu'il y en a dans la salle, là, les vrais amoureux.
Yann, il est comme ça, en train de me dire, putain, tu me fais chier. Non seulement je participe aux émissions, je suis obligé de faire un gros WhatsApp. Les petites questions et tout.
Yann et Chris, les vrais amoureux autour du plateau, là.
Ah ouais, parce que moi,
les vrais amoureux.
Toi, tu fais de la merde, toi. Tu fais opposition à ta carte bleue.
Mais Fred, il veut aller au carnaval. Tout de suite.
Au carnaval.
À Rio.
À Rio.
Ah, il y a celui de Nice en attendant qui est plus près quand même. Hein.
Ouais, il y a Dunkerque, celui de Grandville aussi. Encore plus
près. Ta compagne t'a donné un petit billet d'avion.
Ah oui, oui. Bah oui, bien sûr.
T'as pas mis ça sur ta liste?
Sur ma liste. Sur WhatsApp. Un petit billet d'avion.
Bon alors, les vrais là, vous allez faire quoi vous?
Qu'est-ce que tu veux savoir, Zaza?
Bah, c'est quoi, c'est quoi votre programme de la Saint-Valentin?
Tu nous dis tout.
Me laissez bah, sur.
Alors déjà, le programme, c'est toujours un peu improvisé. Et c'est pas forcément, c'est des attentions qui vont de la plus grande à la plus petite. Donc on s'est pas infligé d'être toujours dans les grands soirs à la Saint-Valentin, mais il y a toujours une attention. Je me rappelle une fois, on a juste pris un petit apéro et on a pris un papier et chacun on a écrit les bonnes raisons qu'on avait d'être ensemble.
Oh,
et on en a trouvé 40.
Ah ouais. 40 chacun.
C'est non, à deux.
Quel mal aussi, hein.
Quelle productivité.
Voilà. Ouais. On a trouvé 40 raisons d'être ensemble. C'est
moi, je suis
énorme.
À 3, moi.
Bon, alors c'est bon, t'as un potentiel de progrès.
Là. Le ménage, la bouffe et le logement.
T'es à 3 dans le
monde. Quel connard.
Y a que ça qui t'intéresse. Oh là là.
Mais c'est très important.
C'est vraiment l'enfoiré.
De rentrer chez soi, de mettre ses petits chaussons et de s'installer avec une belle assiette.
Voilà. Lui, tout ce qu'il veut, c'est foutre les pieds sous
son
la table.
Petit whisky. Son petit whisky.
Fred, il est à 3 dans l'aube.
Il est insupportable. Bon, Yann, vas-y, fais-nous rêver. Toi aussi, là, parce qu'avec lui, là,
nous,
on est
mort. Dans les yeux.
Alors, moi, ça va être normalement petite soirée sauna.
Oh là là!
Waouh! Ça va être chaud!
Caliente!
Oh là là! S'il pouvait tomber dans un sauna gay.
Tu t'es pas trompé du jour!
T'es sûr que c'est réservé aux hétéros?
Fais gaffe, parce que moi je me suis trompé un jour. Mais j'étais tout seul. Et je peux te dire que...
Que mon cul se souvient!
Que t'as remonté ta serviette.
Ah putain, dès le vestiaire, ça suivait, mec. Là, j'ai eu la flûte de ma vie. Il y a des portes qui s'ouvraient. Je refermais vite. J'étais enfermé à double tour, no way.
Oh putain, et après t'as longé les murs pour partir.
T'as rampé jusqu'à la sortie.
Dès le début, j'étais une proie.
Oh putain, les boules.
Donc attention.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, les boules. Ouais,
voilà, on rigole, on les salue du coup.
Et du coup, non mais c'est un sauna que t'as réservé que pour vous deux, ce trêve de bêtises ou...
Oui.
Ah, c'est... Okay. C'est privatif.
Ça.
Oui.
Ça.
Ouais.
Ça, c'est énorme.
Avec petit massage.
Bah, ça, on verra au moment voulu.
Mais ça, c'est une bonne entrée en matière.
Ouais, ah,
franchement, bravo.
Putain, si avec ça tu fais pas toute la nuit, moi je me fais chèvre.
Est-ce que vous est déjà arrivé justement, à part celle de Fred, des expériences un peu improbables le jour de la Saint-Valentin, je sais pas, quelque chose que vous avez fait que vous auriez peut-être pas dû faire ou...
Alors moi, quand j'étais célibataire, je ne sortais pas.
Bah moi, je suis toujours célibataire et je me fais mon propre repas de Saint-Valentin pour me dire je m'aime.
C'est bien.
Magnifique.
Voilà.
Bravo, Zaza.
Excellent.
Et donc, je me fais un super repas. Je m'achète une bonne bouteille de pinard. Je me fais des petites crevettes, des petits trucs en forme de cœur et tout. Du petit saumon fumé que je découpe en cœur et tout. Et je me fais mon repas de je m'aime.
Bah oui.
Super.
Fred, tu peux faire deux assiettes.
Non, mais t'invites le pauvre qui est au coin de ton immeuble. C'est bien.
Ah ouais.
Alors,
le mec qui dort en bas chez toi. Tu sais, le mec avec les ongles noirs. Et...
Pas tout à fait convaincu du délire.
Et la beubare de 10 jours.
Je vous dis ça parce que, enfin, je sais pas, il y en a d'autres à qui c'est arrivé quelque chose de. Non. Alors, oui, il m'est arrivé quelque chose de.
Tout ça pour ça. Il voulait raconter son anecdote.
Va direct au but.
D'assez cocasse. Un 14 février. Figurez-vous que, bon, je me baladais avec un ami.
Oh, ça va être long.
Ben justement, si on me laisse pas finir de parler.
Vas-y, mon ami.
Je me baladais donc un jour comme ça avec un ami, puis on dit tiens allez vas-y on va manger dans le resto, vous savez, celui avec le bœuf où il y a les cornes là, on va pas le citer.
On peut.
On peut. Bah, Buffalo Grill. Voilà. Et donc on arrive au Buffalo. Bon, on s'installe à la table. Mon pote va aux toilettes, le serveur arrive et puis il me fait on attend peut-être madame. Je dis non, c'est monsieur. Et là, je regarde autour de moi, oui, je ne vois que des couples.
Ah putain, c'était le 14 février, vous n'aviez pas tilté ?
Exactement.
Oh bah. Ah les boules, donc pendant tout le repas, le serveur vous a pris pour un couple de guerre.
Non, parce qu'après on a déconné avec le serveur.
Voilà, c'est devenu un troupe.
Ah putain. Et donc voilà, donc on est arrivé au Buffalo. En n'ayant pas tilté au début, quand on était le 14 février,
lose.
C'est une fois arrivé, on se fait « Ah oui, d'accord, ok,
oh,
bon. »
« Voilà mon chéri, tu veux un menu Saint-Valentin ?»
Voilà. Bah, c'est beau l'amour.
Oh putain.
Très bien. Bon, bah, sur ces belles paroles, on va passer au sujet un peu plus sérieux.
Au sujet qui fâche.
Au sujet qui fâche.
Ah, sujet d'intérêt pour tous. Hein.
C'est le sujet du colonel, là, parce que Père Henri a changé de...
Tu veux pas lancer un changement
de casquette.
Non, on va enchaîner directement. On va le faire comme ça.
Il faut se poser des questions, en fait.
De bonnes questions, on va se poser de bonnes questions. Il nous reste un petit quart d'heure.
Est-ce que la Russie est l'ennemi de la France ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit qu'il se passe beaucoup de choses ? Et est-ce que les Français, ils se posent des questions ? J'en ai entendu encore cette semaine qui m'en parlait. Est-ce que la France a des ennemis ? Et quels sont nos ennemis ? Est-ce que la Russie fait partie de nos ennemis ?
Alors, question. Est-ce que la Russie est l'ennemi de la France ? Là, Julien. Oui ou non ?
Est-ce que la Russie est l'ennemi de la France ?
Comme ça.
C'est quoi un ennemi pour toi ? C'est quoi un ennemi
pour
toi ?
Ok. On y va, on enchaîne.
C'est trop compliqué pour dire oui ou non.
Lisa, est-ce que la Russie est l'ennemi de la France ? Aujourd'hui.
Indirectement, je dirais oui, vu que la France soutient l'Ukraine et que, oui, et que la Russie est en guerre contre l'Ukraine, je dirais indirectement oui.
Yann. Oh,
très compliqué. Hein. C'est très compliqué. On va dire joker, mais j'ai envie de dire non. C'est pas notre ennemi.
Il a envie de dire non, et puis bah, moi je vais rentrer dans le jeu, je vais dire oui. Actuellement, la Russie est notre ennemi.
D'accord. Et pourquoi ?
Pourquoi ? Puisque finalement, le fait de se lancer dans un conflit. De territoire a un gros impact sur notre économie et sur aussi sur notre économie déjà.
Ah, et c'est un gros impact sur notre économie ?
Bah, ça a eu un gros impact en tous les cas, le conflit ukrainien, notamment sur les prix de l'électricité.
En 2020.
Oui.
Quelle était la place de la France au niveau économique vis-à-vis de la Russie ?
Bah, ça a eu un impact, non ?
La France était le premier employeur.
Vieux Fred. Il se fait gronder.
Non, c'est intéressant. C'est que c'est intéressant de voir au niveau économique justement quelle était la relation entre la Russie et la France en 2020, avant le conflit. Et ça, il faut se poser des questions. Est-ce que ça a eu un impact sur l'économie française et sur les grands groupes français qui avaient beaucoup d'investissements en Russie? Je prends un exemple. La France était le premier employeur étranger en Russie. 160 000 salariés dans le cadre de filiales françaises.
Donc c'est bien.
Mais il y en a beaucoup qui ont fermé ou qui sont partis.
Oui, mais ça c'est la conséquence.
Ça a bien eu un impact.
C'est la conséquence du conflit. Bah, la France avait 500.
C'est pas une coïncidence.
Non, mais la conséquence.
La conséquence, s'il te plaît. Oui. La France avait 500 filiales en Russie.
Oui. Elle les a plus alors là.
Mais non, elle les a plus. Aujourd'hui, une grande partie n'existe plus ou ont été revendues, enfin dans un cadre. Il est clair simplement que ça a un impact direct sur l'économie de la France et des Français.
Bah, c'est ce qu'on dit.
Puisque aujourd'hui, cette relation était une relation, je dirais, qui avait été construite petit à petit. Et je vais poser la question, sans remonter, je dirais, au XIe siècle, mais comment s'est construite la relation entre la France et la Russie historiquement ?
Bah, sur des conflits, on peut penser à Napoléon, qui est l'ennemi juré des Russes.
Oui, ça c'était Napoléon. Mais avant Napoléon, qu'est-ce qui s'est passé ?
Avant Napoléon, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu les tsars.
Il y a eu des tsars,
il n'y avait pas Louis XIV qui avait une relation... non. Ou Louis, je ne sais plus trop.
Ça, c'est le... Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est l'assassinat du tsar.
Non, mais c'est après Louis XIV. C'est effectivement, tu as raison, après, c'est Louis XV. Donc, effectivement, Louis XV. Et un traité d'alliance, le premier traité d'alliance date du 15 août 1717. Et c'est le premier traité d'alliance entre la Russie et la France. Et c'est vrai qu'il y avait jusque-là, de toute façon, une bonne entente. Parce que, en gros, les ennemis... de nos ennemis sont, voilà, il faut toujours faire attention, quand la France a des amis à côté d'elle qui ne sont pas toujours des amis, on a intérêt à faire des alliances avec les pays qui sont un peu plus loin, de manière à éviter de prendre des coups. Ça a toujours été la politique de la France. Et ensuite, il y a une deuxième alliance en 1756 qui a eu lieu effectivement avec l'Autriche, la Russie et la France pour se prévenir, bien sûr, de tout ce qui était à l'époque, je dirais, la démarche, je dirais, autrichienne, etc., et ensuite plus tard la Prusse. Donc c'est toute une démarche. Alors il y a des étapes au milieu, je le dis un peu rapidement, des étapes au milieu où pendant la Révolution et à l'époque de Louis XVI, il y a une rupture des relations. Il y a eu effectivement avec Napoléon, je dirais, il y a eu d'abord un traité de paix avec Napoléon en 1801 et puis en 1807, et puis ensuite il y a eu une rupture effectivement avec Napoléon à la fin. Et en 1880, au moment de la montée de l'Empire allemand, il y a une triple entente entre la France, donc la Russie, et l'Angleterre, contre, effectivement, la montée de la puissance, je dirais, allemande. Alors, c'est vrai que depuis, ça s'est toujours répété, puisque, que ce soit en 14 ou en 39, et avant la guerre de 39, la France avait une alliance avec la Russie pour éviter, je dirais, la montée en puissance des Allemands. Et c'est comme ça que s'est faite aussi la guerre de 1939-45, puisque les Russes, effectivement, étaient aux côtés des Alliés. Faut pas l'oublier.
C'est avec le monsieur.
Ah oui, non, mais ça, on l'oublie pas.
Et qu'ils ont effectivement libéré un certain nombre de villes en Allemagne et qui ont permis, effectivement, et on peut dire que les troupes russes ont largement contribué, je dirais, à arrêter le nazisme.
Ça, ah oui, c'est tout clair. À fait, ça, on est entièrement d'accord.
Et depuis cette date-là, on va aller vite, depuis cette date-là, quelles étaient les relations, je dirais, après la guerre, et en particulier, qui a repris les relations avec la Russie?
Après la guerre? Les Américains?
Je parle au niveau de la France.
Ah, au niveau de la France. Ah, pardon. Excusez-moi. Alors, cher maître.
Mais une chose intéressante, c'est qu'il ne faut pas oublier, en 1945, je dirais, quelle était, au niveau politique, la couleur politique dominante en France.
En 45?
Ouais.
Le communisme était important?
Bah oui.
Parce que,
tout à fait.
Il y avait des résistants.
Tout à fait. Et donc, les premiers Français à aller, je dirais, en URSS, invités par l'URSS.
Ah, ben, Georges Marget!
À bien avant lui, c'était effectivement Thorez et donc le Parti communiste qui ont été les premiers. Et avec eux, il y avait effectivement un certain nombre de Français qui croyaient que l'URSS, que le marxisme, tout était le communisme, tout était beau, tout était merveilleux.
Le fait d'être ensemble.
Voilà, c'est formidable. Et ils ne connaissaient pas Alexandre Solzhenitsyn à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette période un peu idyllique. Bon. Ensuite, il y a eu quelqu'un de beaucoup plus pragmatique qui était dans les années 60. C'est donc le général de Gaulle. Le général de Gaulle a repris contact avec l'URSS et a commencé à établir, je dirais, une relation politique, positionnant effectivement la France dans le cadre, je dirais, d'un positionnement par rapport aux autres pays européens. Et il a fait la même chose de Gaulle avec la Chine. C'est quand même de Gaulle qui a eu l'initiative d'avoir les premières relations avec Mao Tse-Tung. Bon. Donc ça, c'est là vraiment de la stratégie de positionnement d'un pays par rapport à un autre dans l'intérêt, je dirais, des Français, de l'économie française, du bien-vivre en France. Alors aujourd'hui, la question se pose, effectivement, dans ce cadre-là, je vais passer sur les étapes avec Mitterrand et d'autres. Quel est l'intérêt aujourd'hui de la France par rapport à l'action internationale qui est menée où, je vais être très franc, quand on est sur un plateau de LCI ou un plateau de BFM, il y a une version des faits. Poutine, c'est un salaud, c'est un hitlérien, de toute façon, il ne tient pas debout, il a un cancer de main et tout va mal. Et on veut le faire sauter.
C'est
et
vrai.
Je dis simplement ça parce que dernièrement, ça a été le commentaire hier.
Ils ont raison.
Ça a été le commentaire hier. Et alors, heureusement, il y a un type qui a intervenu en disant, écoutez, depuis le temps que vous dites que Poutine est malade.
Vous allez pouvoir répondre en quelques instants.
Depuis le temps que. Oui, tout à fait, je te donne la parole, bien sûr. Depuis le temps que Poutine est malade, il a tenu pendant 4 heures devant tous les journalistes il y a environ 3 semaines. S'il avait un cancer et s'il n'était pas bien, il ne serait pas capable de faire ça.
Juste pour ajouter.
Mais c'est lequel Poutine? Parce que vu le nombre de sosies qu'il a.
Juste un complément.
Non, mais c'est la vérité.
Juste un complément là-dessus. Rappelez-vous qu'avant le conflit, quand même, Poutine a été reçu avec les honneurs à Versailles par le président Emmanuel Macron.
Oui.
Et il y a l'église orthodoxe aussi qui a été, construite dans le.
Financée.
Dans le 7e arrondissement.
Mais ça, c'est il y a longtemps. Non, mais c'est quand même. Oui, mais c'était. Ça date pas de Macron.
Non, mais de Poutine. Enfin, sous le règne
Poutine.
De Poutine,
Poutine.
Grands honneurs.
Voilà. Ouais, mais sous Poutine, ça fait combien de temps qu'il est au pouvoir, Poutine?
Ah bah oui, mais ça veut dire qu'il était plutôt
bien vu. Poutine est depuis 1999.
Voilà.
Bah
il est,
oui, bah il était naissance. Quasiment 25 ans.
Mais il était plutôt bien vu, et d'ailleurs, il a été reçu quand même, il faut le dire, avec les honneurs à Versailles. Hein.
Ah mais donc, il a été reçu aussi dans le Midi avec le président.
Voilà, il a quand même eu droit
aux honneurs.
Et c'était le premier, me semble-t-il, je me trompe peut-être. Mais c'est suite à l'élection d'Emmanuel Macron, c'est le premier chef d'État ou l'un des premiers à être venu, en France. Alors voilà. Et puis d'ailleurs, c'est, il faut aussi le noter, les Russes ont une sensibilité particulière, notamment en ce qui concerne la littérature française, les arts français, même le tourisme, à travers le tourisme, culture, ils sont très présents aussi sur la Côte d'Azur. Ils adorent la France. Les Russes
adorent la France. Ils aiment beaucoup les bons vins.
Ils aiment beaucoup les bons vins. Ils aiment.
Là, ces derniers temps, depuis le conflit, ils viennent plus.
Ils viennent plus du coup parce que ils sont pas autorisés à venir.
Et puis, mais en l'occurrence,
c'est vrai que avant le déclenchement de ce conflit, on pouvait dire que les relations entre la Russie et la France étaient cordiales.
Mais bien sûr. Mais et je pense qu'au
niveau
d'accord.
économique et au niveau européen, on avait un positionnement même vis-à-vis de l'Allemagne qui faisait qu'on était le deuxième investisseur étranger. Devant l'Allemagne, faut le savoir, c'était les Anglais en premier, et devant l'Allemagne, en Russie. Et qu'il y avait vraiment un investissement aussi de la Russie en France, mais dans une moindre mesure. Donc, depuis 2014, il s'est passé des choses. C'est-à-dire qu'en 2014, quand Poutine a vu que ça se passait mal, et il a commencé à retirer ses billes. Donc Poutine, petit à petit, a vu que, effectivement, les Américains et l'OTAN voulaient continuer à grignoter tous les pays anciennement du pacte de Varsovie.
Satellite, quoi.
Satellite. Et essayer de déstabiliser. Alors il y a un certain nombre de crises, je reviens dessus, sur la Rand Corporation, qui est un think tank américain, et qui, je dirais, conseille le président américain, mais également d'autres organismes, avec Brzezinski, l'ancien responsable, je dirais, au niveau de la Maison Blanche, qui ont tous écrit, que l'objectif était le démantèlement de la Russie. L'objectif, c'est le démantèlement en plusieurs États. En gros, en 19 États pour certains, en 12 États pour d'autres, en 4 États pour d'autres. L'objectif, c'est le démantèlement de la Russie. Et ça, c'est écrit. Ce sont des documents écrits. Et aujourd'hui, la mise en œuvre de ça se fait petit à petit. Ils grignotent et ils essayent. Bon, alors, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'effectivement, et ça, le ministre des Finances français a parlé un peu trop vite, mais c'est vrai qu'ils pensaient que, étant donné les sanctions financières, que la Russie tomberait du jour au lendemain.
Ce qui n'est pas le cas, véritable effort de résilience, on s'en rend compte.
Et donc, il y a aussi une solidité de ce pays, qui a une économie qui fonctionne, avec effectivement le pétrole, le gaz. Alors actuellement, ils sont en train de se poser des questions. Est-ce qu'on ne va pas attaquer tout ce qui est pétrole et tout ce qui est gaz pour empêcher la Russie d'utiliser son pétrole et son gaz pour détruire la Russie? Et puis ensuite, est-ce qu'on ne va pas attaquer les usines de scie, les usines d'armement, les usines de tout ça?
Mais pourquoi anéantir la Russie ou s'en prendre à la
question.
Russie?
Pourquoi ? Est-ce que effectivement aujourd'hui, est-ce que quand on regarde les relations internationales, quand on regarde, moi je reviens toujours sur ce qui est écrit dans le dossier, je dirais du Pentagone. Dans le dossier du Pentagone, le Pentagone, c'est donc effectivement toute la défense américaine, et l'objectif qui est donné par la défense américaine, c'est défense de l'économie américaine. C'est pas la paix dans le monde.
Mais est-ce que ça passe par
la
Russie ?
C'est pas la paix dans le monde. Oui. C'est pas la paix en Europe.
Mais est-ce que la Russie, finalement, c'est pas l'ennemi, c'est plus la Russie, c'est la Chine. C'est un peu un discours des années 70 et de guerre froide, ça. Parce qu'aujourd'hui, le véritable ennemi économique, c'est plus la Russie.
Alors.
C'est la Chine.
C'est ce que disent un certain nombre d'Américains. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, à cause de cette attaque de la Russie qui s'est faite, je dirais, de manière intempestive, en pensant qu'elle allait se casser la figure, il y a une alliance qui s'est faite entre la Chine et la Russie. Aujourd'hui,
oui, ça. Oui. Donc c'est contre-productif.
Moi, je pense que dans la déclaration de la semaine dernière du président chinois, le président chinois a redit « Nous ne lâcherons pas la Russie. Nous ne la laisserons pas tomber. »
Oui, mais Macron dit « Nous ne lâcherons pas les Ukrainiens. »
Oui, enfin, Macron, il a quel poids là-dessus?
C'est quand même lui qui décide de la politique de la France, excuse-moi.
Je voudrais te poser la question, comment peut-il faire? C'est ça, c'est une bonne question, t'as raison de poser la question.
Un peu de calme. Respectez-vous les uns les autres.
Ah, mais je suis très calme.
La question, c'est comment...
Je m'exprime, je suis calme, m'exprime.
Non, mais c'est bien, t'as raison de poser la question. Comment, aujourd'hui, M. Macron peut-il faire entendre le poids de sa décision? Avec des armes, c'est ce que tu veux dire, il faut qu'il soit...
Ah non, j'ai pas dit ça.
Comment exprimer la puissance ou la force de Macron?
Je dis juste qu'il réaffirme cette position vis-à-vis de notre pays.
Oui, c'est mais est-ce que c'est la diplomatie. Est-ce que c'est un discours ou est-ce que c'est une réalité?
Ah, c'est dans son discours, de toute façon, en l'occurrence.
C'est purement rhétorique.
Est-ce qu'il a les moyens de sa politique?
Non.
Je vais prendre un exemple. Au niveau des munitions qui sont dépensées tous les jours par les Russes, on tourne à peu près à peut-être... entre 3 000 et 20 000 obus tous les jours.
Oui. Bon. 15-20 000.
On fabrique combien en France d'obus par an?
Alors, dis-nous.
3 000 par an.
Voilà.
Oui, non, mais on n'est pas tout seul, de toute façon.
Et d'ailleurs, à ce sujet-là...
On n'est pas tout seul à soutenir l'Ukraine.
À ce sujet-là, c'est pas le pays qui soutient le plus l'Ukraine en termes d'armement. La France, on est très...
Non, la France... Ah, si, si. Au niveau armement...
C'est pas ce qu'on nous dit.
La France est un des pays qui soutient le plus en termes d'armement efficace.
L'Allemagne aussi.
En termes d'armement efficace, je dirais, en particulier avec la livraison de tous les scalps. Il faut savoir que les scalps, ce sont des missiles de croisière qui sont extrêmement précis, extrêmement efficaces. Et alors, effectivement, on en a quand même, a priori, on est en train d'en donner plus de 140.
Ouais, mais quand on regarde les investissements et l'argent, en termes de chiffre d'affaires ou d'argent consacré à l'Ukraine, on n'est pas en première ligne. Hein.
Non.
Les Anglais l'ont été avec Boris Johnson, les Allemands, sont. Il y a d'autres pays qui sont devant.
Au niveau financier, non. Mais au niveau armement oui. On fournit des choses de haut niveau. Et les canons César ou, je dirais, les scalps font partie, je dirais, des systèmes qui sont quand même très agressifs.
Donc on est en guerre, alors, si on t'écoute.
Alors la question se pose, est-ce que nous sommes en guerre ou pas?
Bah oui, si on fournit des armes.
Alors légalement, qu'est-ce qu'il faut pour être en guerre?
Dans ces cas-là, ça fait 2 ans qu'on est en guerre, parce que ça fait un an et demi qu'on leur fournit des armes.
Donc si on leur fournit des armes, c'est bien notre ennemi.
C'est pas une nouvelle idée.
Si on fournit des armes à l'Ukraine, c'est bien notre ennemi.
C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très intéressant.
Que ça tue.
C'est pour ça quelque chose de très intéressant dont on a parlé l'autre jour, mais je pense qu'il faut le redire. C'est la position des États-Unis dans le conflit, je dirais, avec l'Iran. C'est qu'ils ont attaqué effectivement les pays satellites, que ce soit bon, le Liban, la Syrie ou, je dirais, le Yémen, mais ils n'ont pas touché au Liban. Parce qu'effectivement, le Liban attaque via un certain nombre de pays. Et effectivement, l'Ukraine attaque la Russie, les États-Unis attaquent la Russie via un certain nombre de pays.
Oui, mais ça, on l'a compris. Mais il n'y a pas que les États-Unis, du coup, si on fournit des armes. Il y a la France.
Alors, il y a l'Allemagne, il y a les Danois, il y a les Suédois, tous les pays de l'OTAN.
Ah oui.
Sauf la Turquie.
Oui.
Oui.
Alors là aussi, la question, c'est quels sont l'intérêt de l'Europe aujourd'hui pour ce conflit? Et alors, qu'est-ce qui se passe au niveau financier actuellement? On s'aperçoit que les Américains sont en train de diminuer la fourniture d'armement et la fourniture d'argent.
Oui.
Et qu'a priori, ils demandent aux Européens d'assurer
leur contribution, le complément.
Le complément. Est-ce que c'est notre intérêt de fournir ce complément? Est-ce que c'est notre intérêt, je dirais, de nous engager dans ce conflit?
Mais on est déjà engagé depuis plus d'un an et demi.
Et on peut plus se désengager, en fait. C'est aussi simple que ça.
Alors, la question, ça. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche la paix. Et si on recherche la paix, il faut négocier. Pourquoi, aujourd'hui, il n'y a pas de diplomate français qui propose une solution, une négociation?
Macron a essayé de le faire au tout début du conflit, en étant sans cesse au téléphone avec Poutine, mais c'était très compliqué.
Oui, mais ça, comme il a publié ça, il a fait une publication, je dirais, de sa communication téléphonique aux journalistes, ça n'a pas trop plu chez Poutine. Mais ce qui est certain, c'est qu'au tout début du conflit, il y a eu un accord qui a été passé entre Zelensky et Poutine dans des réunions qui ont eu lieu en Turquie. Mais les Américains et les Anglais ont interdit cet accord. Bon, ça, on le sait aujourd'hui. Et c'est vrai que Major, à l'époque, a voyagé directement à Kiev pour dire « on veut faire la guerre ». Donc aujourd'hui, il y a une volonté américaine, anglaise de faire la guerre. Il n'y avait pas au départ la volonté française, mais en gros, on peut se poser la question, est-ce que la France a vraiment une liberté dans ce domaine? Et on doit se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, les députés et les sénateurs sont, je dirais, convaincus que la guerre est nécessaire? Et est-ce que les citoyens français ne pourraient pas se poser la question de dire...
Moi, je pense que les citoyens français ne sont pas pour ce conflit-là.
Tu penses ça?
Je pense qu'ils souhaitent... Non, je pense que la majorité, malheureusement, si tu devais faire un référendum aujourd'hui... Je suis pas sûr que le soutien.
C'est pas l'intérêt de la France, globalement.
Alors, c'est pas l'intérêt de la France, ça c'est encore autre chose. Mais je pense que si tu devais faire un sondage ou un référendum aujourd'hui, je suis pas sûr que la majorité des Français serait pour continuer.
Alors, il y a 2 ans, c'était quand le conflit a commencé, je suis persuadé que clairement il y avait une grande. Enfin, après, on l'a pas
une
fait.
Une majorité de gens pour.
De toute façon, il y a eu des sondages de fait à l'époque. Il n'y a pas eu de référendum, mais il y a eu des sondages. Et il y avait 78 ou 80%
des gens
Français
pour.
Qui étaient totalement pour.
Parce qu'on était dans l'émotion. Maintenant, la guerre est longue, en fait, on se rend compte que la guerre est longue.
Maintenant, 2 ans après, ça a dû diminuer, en tous les cas. Je pense que ça a dû largement diminuer, j'ai pas regardé de sondage récent, mais je pense que ça a dû diminuer parce que on se rend compte que ça a un impact sur notre quotidien.
Ce qu'on peut dire à nos auditeurs, si on arrive en fin d'émission, on peut dire que quand même malgré tout, la France est en guerre contre la Russie en fournissant des armes à l'Ukraine de manière indirecte. À noter aussi que ce conflit, si jamais il y a l'élection actuellement américaine, c'est cette année. Si Donald Trump passe, je pense que le conflit, on arrivera à une solution diplomatique. Ouais. Et si c'est Biden qui passe, je pense que le conflit continuera.
Je pense que la volonté américaine, qu'elle soit, je dirais, démocrate ou qu'elle soit républicaine, c'est la volonté de casser la Russie.
Okay.
D'un côté comme de l'autre.
D'un côté comme de l'autre.
D'un côté
parce qu'on avait cru comprendre
que
Donald Trump et Poutine étaient...
Les faucons là-bas sont tous pour ça.
D'accord.
Maintenant, c'est aussi pour cacher au niveau des problèmes de politique intérieure américaine. Parce qu'il y a des gros problèmes au niveau politique intérieur.
Déjà, il y a un fort endettement en termes économiques, même s'il y a une belle croissance, mais c'est lié sur l'endettement.
On a vu les problèmes au niveau du Texas, vous avez peut-être vu avec l'immigration mexicaine, etc. Donc il y a énormément de problèmes actuellement sociaux, et la question se pose justement de qu'est-ce qui va se passer au niveau des États-Unis, et donc dans tous les pays du monde, la manière de faire, c'est toujours de trouver un ennemi, donc c'est intéressant pour les États-Unis actuellement d'avoir un ennemi.
Okay.
Et maintenant, la France, est-ce que c'est intéressant pour la France de rentrer dans cette démarche? Moi, je dis simplement, comme le général de Gaulle, comme éventuellement le président Chirac et comme d'autres, la France doit défendre son indépendance et sa souveraineté et non pas se mettre sous la souveraineté de l'Europe comme M. Macron le demande. C'est pas l'Europe qui doit décider pour les Français.
Aussi,
c'est pas l'Europe qui doit décider pour les Français, c'est les Français qui doivent décider pour eux.
Et à noter aussi, Russie, c'est un peu l'Europe aussi malgré tout.
Alors, ça, c'est une vraie question. La France et le général de Gaulle a toujours dit de la Bretagne à l'Oural.
De la Bretagne à l'Oural. Et la Russie, c'est aussi une partie de l'Europe. Faut pas le...
Maintenant, c'est vrai aussi que les Américains ont répondu. On a cassé, le réseau gazoduc parce qu'on ne voulait pas que les Allemands soient trop puissants. Parce qu'effectivement, la montée de la puissance économique allemande fait peur aux Américains. Il faut le savoir. Ça, c'est écrit. Les textes le disent. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, si elle veut vraiment avoir une politique indépendante qui puisse permettre, je dirais, de s'équilibrer avec les Américains, voire avec les Chinois, eh bien, nécessite, je dirais, une autonomie. Et aujourd'hui, les Américains ne nous considèrent pas de manière autonome, mais sous leur coupe. Et donc, je pense que les citoyens français doivent se réveiller un peu et faire un peu comme Gérald de Gaulle avait fait, taper du poing sur la table en disant « Les bases américaines, on les dégage et on sort de l'OTAN ». Ça, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Et il faut se poser la question « Est-ce que c'est notre intérêt ou pas ?» Parce que sinon, on sera toujours, je dirais, en train de se faire cocufier, quoi.
Très bien, moi, c'est sur ces belles paroles. Que nous...
voilà,
on a commencé avec la notion de couple, on termine avec la notion de cocufiage.
Voilà. Cocufier.
C'est
hyper positif.
Positif, en tous les cas.
En tout cas. On se retrouve demain,
chef. Eh ben, on se retrouve demain,
de
20h à 21h.
En direct.
En direct.
Avec notre nouvel invité.
Ouais, restez avec nous, en tous les cas. Demain, même heure, 20h, 21h. Et à 21h22, la playlist spéciale Love. Ciao, bye bye.
À demain.
Salut, bye tout le monde. Bisous.
Dynamique Radio. La radio facile à écouter.
Right now.